Studio Tamani, voici les informations en français.
La diversité culturelle malienne est un atout pour le retour de la paix et le vivre ensemble. Selon des observateurs, cette richesse doit être valorisée. Dégager des pistes de solutions sur les enjeux des changements climatiques, c'est l'objectif d'une rencontre d'échange tenue ce matin à Bamako entre leaders religieux musulmans et chrétiens. Le thé est l'une des boissons préférées des Maliens pour beaucoup de consommateurs. Il renforce le dynamisme et la cohésion sociale. À l'occasion de la Journée internationale du thé célébrée ce 21 mai, la rédaction fait un focus sur les bienfaits de la plante. C'était à l'instant le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails avec Hamsetou Touré. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est célébrée ce mardi 21 mai 2024. Pour les acteurs culturels maliens, c'est une occasion de réfléchir à ses avantages au profit de la paix et la cohésion sociale. Ils expriment également la nécessité de renforcer les initiatives en faveur de cette richesse et promouvoir le dialogue interculturel. Les détails avec Khalifa Goïta et Rukia Kansai.
La diversité culturelle est une opportunité pour la paix et le développement selon les acteurs du monde de la culture. Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste, affirme que le Mali a besoin aujourd'hui des mécanismes endogènes dans sa diversité culturelle pour bâtir un État fort.
Notre pays est composé de plusieurs ethnies. Pour qu'on puisse vivre heureux, il faut se pardonner. On peut tout gagner dans l'entente, telle que le bonheur et l'entraide. On doit se donner la main, s'aimer tout en travaillant. Il y aura le développement.
Les artistes du Mali reste une catégorie de personnes qui jouent un rôle important dans la promotion de cette diversité. Conscient de son rôle en faveur de cette recherche, le président de la FEDAMA, Adama Traoré, estime que la valorisation de cette diversité favorise le vivre ensemble et la paix.
Accepter la diversité culturelle, c'est être tolérant. Et chaque fois qu'elle est menacée, il n'y a pas de dialogue. La cohésion sociale prend un coup. Plus que jamais, les artistes savent développer les différentes expressions des différentes cultures qui permettent de créer l'harmonie.
Le Mali est un exemple de diversité culturelle selon le directeur régional de la culture de Mopti, Adama Traoré. Pour lui, seule l'union autour de la diversité culturelle peut apaiser le pays.
Nous avons Sinankuya. Donc si on comprenait l'essence de ce Sinankuya, je pense que ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'allait pas se faire.
Pour les observateurs, la promotion de la diversité culturelle est prise en compte au sommet de l'État, d'où la relance de la Biennale artistique et culturel.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. La traditionnelle cérémonie de sacrifice annuelle sous le pied de la grande colline Kitakuru a eu lieu le 19 mai 2024 dans la commune urbaine de Kita. Cette cérémonie est organisée par la confrérie des chasseurs de Kita. L'objectif, selon elle, est de recueillir les faveurs divines de la colline pour la grandeur de la localité. À cette édition de 2024, des sacrifices ont été faits pour la paix, la stabilité au Mali. La cérémonie a enregistré la présence des autorités régionales et locales de Kita. Je l'annonçais dans les titres, les conséquences du dérèglement climatique étaient ce matin au cœur d'une rencontre d'échange entre leaders religieux du Mali. Objectif, échanger sur les enjeux des changements climatiques et faire des recommandations assorties d'un plan d'action. L'initiative est du réseau Islam, Population et Développement en collaboration avec le réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali. Le point dans ce reportage de Maman Baba Kunta.
Imam Mamadou Traoré est le président du réseau islamique Population et Développement. Il affirme que cette rencontre vise à offrir un espace d'échange entre le monde religieux et les autres structures évoluant dans le domaine de l'environnement.
Après constat de ce qu'on a vu cette année, la forte chaleur pendant le mois de Ramadan et le carême des chrétiens, on dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que leaders religieux, musulmans et chrétiens, dans la lutte contre les conséquences collatéraux des changements climatiques.
L'initiative est saluée par le réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali. Selon sa présidente, Mme Maïga Sina Damba, les effets du changement climatique affectent non seulement la population, mais aussi le système de rendement au Mali.
Cette activité vient à point nommé. L'occasion sera mise à profit pour mettre un accent particulier sur notre responsabilité en tant qu'humains, la nécessité d'un changement de comportement vis-à-vis des ressources naturelles, l'obligation pour nous de penser aux générations futures.
Notons que toutes les confessions religieuses ont participé à ces échanges.
Autre titre de ce journal, la Journée internationale du thé a été célébrée ce mardi 21 mai 2024 à travers le monde. À cette occasion, des grossistes affirment que le marché est suffisamment approvisionné en thé. Quant aux consommateurs, le thé demeure la boisson la plus sollicitée par les Maliens dans les grains à Bamako et à l'intérieur du pays. Plus de détails avec Sita Sidibé.
La société Bamoué Kamia et Frères, Sokamef, est l'une des sociétés importatrices du thé au Mali. Selon Abdelkarim Koulibaly, un des responsables de la société, ces thés proviennent de la Chine et sont distribués à travers le Mali.
Le thé que nous vendons sur le marché au Mali, c'est le thé Baka. Nous l'importons de la Chine dans des conteneurs en grand nombre. On le livre aux détaillants à travers tout le pays.
Dans les régions comme à Bamako, le thé est consommé par des milliers de personnes chaque jour. Pour certaines d'entre elles, cette boisson quotidienne anime le grain et galvanise le travail dans les services.
Je consomme le thé quotidiennement même. Je dirais que le thé, c'est une source de motivation pour moi.
Je ne peux pas passer une journée entière. C'est mon excitant de la journée.
Moi, personnellement, je prends presque toutes les qualités du thé.
Et ça crée aussi la solidarité autour de nous. On discute autour du thé pour parler de certains sujets.
Certains amateurs affirment qu'ils ont des maux de tête à chaque fois qu'ils passent une journée sans prendre le thé.
Un mot de sport dans ce journal. Le Djoliba AC s'adjuge le trophée du championnat national Ligue 1 de football pour la saison 2024. Hier, les Rouges de Bamako ont battu le COB 3-1 au compte de la 28e journée. Cette victoire leur a permis de prendre le titre à deux journées de la fin du championnat. Le Djoliba AC est ainsi champion de cette compétition pour la 15e fois. Pour le coach du Djoliba, Demba Traoré, ce titre marque le dur labeur du staff et des supporters. Demba Traoré réagit au micro de Jiadata Maïga.
Très content, très fier, mais d'abord très fier de mes joueurs et encore à tout le staff qui m'accompagne et puis encore le titre là, c'est couru, surtout pour les supporters du Djoliba AC. Les joueurs ont cru au projet, on a parlé, on a discuté et moi je pense que ce qu'on voulait, on l'a eu. Au départ, c'était pas facile. Le football, les problèmes, ça se gère tous les jours. On a des petits soucis par là, on gère, on passe. Donc voilà, donc c'est ça une équipe de football. Bon.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
L'artisanat constitue un des piliers fondamentaux de la culture au Mali. Bon nombre d'artisans à Bamako et à l'intérieur du pays utilisent des techniques modernes pour revêtir leur savoir-faire en vue d'accroître leurs revenus. D'autres préfèrent garder les anciennes méthodes pour sauvegarder le savoir-faire traditionnel. Quels sont les défis et les avantages de la coexistence entre l'artisanat moderne et traditionnel? La réponse à ces questions dans notre dossier de la semaine. Il est réalisé par Aramatou Haïdara.
Au cœur de la capitale, dans les Halles de Bamako, Nestor Diarra, sculpteur, est en pleine activité dans son atelier. Sur place, l'odeur du bois se mêle au bourdonnement des machines électriques. Comme bon nombre d'artisans, Nestor intègre des techniques modernes à son travail pour enrichir son savoir-faire et innover ses créations.
Auparavant, pour la sculpture, nous travaillions avec des outils traditionnels. Maintenant, nous avons impliqué les meules à main. Il y a aussi d'autres outils comme les perceuses électriques. Pour le polissage, nous utilisons des ponceuses électriques.
À travers cette manière de faire, Nestor accroît également ses revenus, car la dite technique contribue à développer ses productions.
Nous essayons de donner plus de moyens au travail pour encore accroître notre production, parce que plus la commande est grande, plus on a besoin d'autres techniques pour pouvoir progresser vite.
Mais tous les artisans ne partagent pas cette approche. Hamé Ag Mohamedoun est un exemple. Le jeune bijoutier âgé de la trentaine préfère la méthode classique. Pour lui, il est indispensable de maintenir la valeur patrimoniale de l'artisanat traditionnel.
Actuellement, il y a des machines qui facilitent le travail à certains artisans. Mais personnellement, je préfère confectionner mes œuvres artistiques à la main. C'est une technique que mes parents m'ont appris et je transmettrai ce savoir-faire à mes enfants.
Garder l'originalité du savoir-faire traditionnel, c'est ce que prône aussi Amadou Diallo, traditionnaliste de Koulikoro. Il estime que l'intégration de nouvelles techniques peut défavoriser la pratique du métier traditionnel.
Pour moi, le fait d'intégrer des techniques modernes dans l'artisanat risque de rendre obsolètes les techniques traditionnelles et cela tue le savoir-faire des artisans. Il est vrai que ça les aide à accroître leur productivité, mais je pense qu'il est important de préserver les techniques traditionnelles.
Trouver un équilibre entre les méthodes anciennes et modernes dans l'artisanat représente un défi de taille selon les observateurs. Cependant, beaucoup d'artisans estiment que l'avenir de cette industrie dépend de la capacité à combiner ces deux approches.
À présent, nous retrouvons Imarane Kilou Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imarana.
Bonsoir Amsatou.
Alors, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir ?
Les enjeux de l'exploitation du lithium au Mali, ça sera avec quatre invités. Docteur Ismaïla Ndiaye, spécialiste de la genèse des gisements métallifères. Et Moussa Samake, président régional du syndicat malien du commerce des mines de Bougouni. Modibo Mao Makalou, économiste. Et Mamadou Lamine Diawara, directeur de l'école supérieure privée de géologie et de mines.
C'est noté et c'est ce qui referme ce journal, une présentation de Hamsetou Touré. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. La fistule obstétricale fait partie des problèmes de santé publique au Mali car elle touche de nombreuses femmes. Cependant, plus de 1000 femmes ont été prises en charge par des organisations engagées en faveur de la lutte contre cette anomalie. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule, célébrée ce 23 mai, la rédaction met la lumière sur la situation de cette infection. C'est à travers notre magazine Toutes les femmes du Mali. Il est réalisé par Fatmata Kodio et Rokia Kansai avec le concours de nos correspondants.
La fistule est une menace pour les femmes enceintes qui vivent dans les zones d'insécurité. C'est le résumé du témoignage donné par cet anonyme et proche d'une femme fistuleuse. Elle indique que sa belle-fille a été atteinte de la maladie suite à une non-assistance quand elle était en période de travail.
Ma belle-fille était en plein travail. Nous avons passé 2 jours en charrette sur la route avant d'atteindre l'hôpital. Une fois là-bas, on nous a référé à Sévaré. Elle s'est rétablie doucement, mais elle est toujours fistuleuse et dégage une puanteur insoutenable.
Le non-suivi de la grossesse, le travail difficile et prolongé de l'accouchement sont les facteurs qui favorisent la fistule chez la femme, explique le professeur Ali Dourou Tembeli, spécialiste en urologie.
C'est une communication des voies urinaires aux voies génitales au cours d'un accouchement ou après un accouchement. La cause, elle n'est pas microbienne. Elle n'est pas parasitaire, elle n'est pas dans le sang, elle ne dépend que de la non-assistance de cette dame. Et en ce moment, les urines vont sourdre dans l'appareil génital. Donc la femme va être mouillée et elle va sentir régulièrement des urines.
À Bankas, dans la région de Badjangara, les femmes atteintes de la fistule bénéficient des premiers soins au CCRF une fois le diagnostic posé. Selon Mamadou Koulibaly, médecin au centre, les patientes sont aussi orientées vers les centres de santé adéquats.
On essaie de traiter l'infection urogénitale qui est tout le temps associée à ces phénomènes. Et nous orientons ces dames-là au deuxième niveau de référence, qui est l'hôpital Sobinet de l'eau de Sévaré, qui prend des mesures pour leur prise en charge.
À l'hôpital de Sikasso, ce sont 4 médecins qui sont chargés de la prise en charge des femmes porteuses de fistules. Dr Salif Traoré, point focal fistule à l'hôpital de Sikasso.
De 2014 à nos jours, on a pris en charge à peu près 500 femmes, tout type de fistules confondues. Les fistules obstétricales sont des fistules qui sont causées durant l'accouchement, mais les fistules iatrogènes, ça, ce sont des fistules qui sont souvent provoquées par les interventions.
Le centre d'accueil Oasis a été créé en 1999 pour soutenir les malades de la fistule. Ce centre offre un hébergement et une prise en charge chirurgicale aux victimes. Professeur Ali Dourou Temeli est un spécialiste en urologie et initiateur.
Il y a une capacité de 50 femmes et il y a un urologue qui les examine. Et jusqu'à ce que la patiente soit opérée, elle retourne toujours au point G. Sous surveillance, nous avons aussi le volet de formation pour la réintégration sociale. La prise en charge, elle est gratuite.
L'Association pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, Yamani Mali, est aussi engagée dans cette lutte depuis 24 ans. Madame Dolo Oumoudjombele, directrice de la dite association.
Nous avons prévu de prendre une trentaine de femmes. Il y a 26 femmes suspectées de fistules obstétricales qui ont été identifiées et orientées à l'hôpital régional de Sikasso. En 2018, les résultats de l'étude de capitalisation, le nombre de femmes que nous avons pu prendre en charge, c'est 1824 femmes. Maintenant, de 2019 à nos jours, nous avons opéré plus de 430 femmes.
Les acteurs demandent aux femmes de suivre la consultation prénatale, gage d'une meilleure prévention de la fistule obstétricale.